Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin, Sébastien de Courtois pour Chrétien d'Orient. Je reçois Française Briquel Chatonnet, fidèle de notre émission, historienne, directrice de recherche au CNRS, et qui vient nous présenter un ouvrage coécrit avec Muriel Debier, Le monde syriaque sur les routes d'un christianisme ignoré. Un livre qui vient de sortir dans une superbe édition, je dois dire, aux belles lettres. Votre ouvrage s'adresse au grand public. Il est illustré avec de nombreuses citations, des cartes en couleur, en quadrichromie, ce qu'il faut quand même préciser, et il comble, me semble-t-il, un vide éditorial, de manière élégante et surtout pédagogique. Un livre qui se permet d'embrasser plusieurs siècles d'une histoire araméenne, mésopotamienne, ancrée aux confins de ce christianisme premier et fondateur. Bonjour Françoise.
Bonjour Sébastien.
Alors la première question, en tant que curieux et grand lecteur d'ouvrages liés au christianisme oriental, la question que je me permets, c'est quel a été le postulat de départ pour un tel livre ?
C'était que les chrétiens de culture syriaque, c'est-à-dire araméenne, avaient donc justement une culture spécifique que l'on distingue souvent mal au milieu des chrétiens d'Orient, qui a cette particularité de ne pas être liée ni à un État, donc à une structure politique, ni à un peuple, à une ethnie. Et qu'ils ne l'ont pas du tout revendiqué comme tel.
Vous mettez culture syriaque au pluriel.
Je ne sais pas si je la mettrais au pluriel, parce que c'est, la culture française est plurielle dans ce cas-là aussi. Ce n'est pas, il y a aussi beaucoup de points en commun à tous les gens qui partagent cette culture. Mais ça a été une culture portée par des gens fort divers à des milliers de kilomètres les uns des autres. Et dans des contextes politiques, culturels, très différents. C'est une culture qui a été portée par beaucoup de gens dont ce n'était pas la culture de naissance, dont ce n'était pas la langue vernaculaire, par exemple.
Alors, il faut revenir à certains principes de départ. Nous sommes en Mésopotamie.
Alors, nous sommes au départ à Édesse, c'est-à-dire en haute Mésopotamie, dans la boucle de l'Euphrate, dans une région de frontière, une région qui a été partagée au début de notre ère entre l'Empire romain d'un côté et l'Empire perse de l'autre. Et ce petit royaume, cette petite principauté, avec donc cette capitale, Édesse, était de langue araméenne, comme Palmyre ou les Nabatéens, qui rappelleront sans doute plus à beaucoup d'auditeurs. Mais déjà, comme c'était une région de frontière, avec de multiples influences. C'est-à-dire que ce petit royaume du 1er, 3e siècle, la ville avait été fondée par des colons d'Alexandre le Grand, donc par des Macédoniens, des Grecs, et avait subi aussi beaucoup d'influences, notamment mésopotamiennes. Perse, on était à la frontière de l'Empire perse, donc il y a toute une partie du vocabulaire qui était perse, et aussi arabe. Les noms des rois, dont le plus connu est sans doute Abgar, il y a eu beaucoup de rois qui sont appelés Abgar, c'est un nom arabe. Par exemple, on connaît les cultes de là-bas, il y a un mélange, il y a Mar Alaa, le seigneur des dieux, avec son nom en araméen, dont la femme est Héra, en grec. Il y a, on avait le culte de dieux grecs, mésopotamien, Bel et Nabou, par exemple, et Azizou, pour le nom d'un dieu arabe. Donc, une culture déjà mixte, si l'on veut. Or, cette ville, qui était, parce qu'elle était au nœud des routes, a été le centre de diffusion du christianisme vers l'Orient. C'est-à-dire que c'est la chrétienté d'Édesse qui a envoyé des missionnaires en Orient, c'est-à-dire dans tout le reste de la Mésopotamie, vers le plateau iranien, et bien au-delà, on pourra le voir. Donc c'est la culture religieuse et chrétienne d'Édesse, la traduction de la Bible faite à Édesse en araméen, qui ont irrigué toute la culture chrétienne de tout cet Orient. Et en plus, comme c'était aussi une culture qui a rapidement été brillante, elle a aussi irrigué vers l'Occident, c'est-à-dire vers la Syrie. Alors, et donc, c'est une culture qui s'est répandue de la Méditerranée à la mer de Chine.
Pour compléter un petit peu, il s'agit d'une branche, ce syriaque, ce dialecte d'Édesse, qui appartient à cette grande famille des langues araméennes.
Ça appartient à la langue araméenne, oui, c'est une...
Et qui a survécu jusqu'à notre époque par cette histoire brillante dont nous allons parler, parce qu'elle a été christianisée, en fait. C'est devenu la langue de ce premier rameau chrétien.
Alors, le syriaque a été la langue de ce rameau chrétien et donc la langue culturelle de tous les chrétiens, d'abord la plupart des chrétiens de langue araméenne et puis de beaucoup d'autres langues. Elle a survécu, l'araméen a survécu comme langue vivante dans différentes formes dialectales qui ne sont pas forcément le syriaque, qui sont issus de dialectes de Mésopotamie, de dialectes du sud-est de la Turquie, qui a survécu aussi chez les juifs. Les juifs d'Irak parlaient l'araméen jusqu'à leur migration massive en Israël, où peu à peu, ils ont continué à le parler, mais où ça se perd peu à peu. Donc, le syriaque est la langue liturgique, religieuse, culturelle, littéraire, des chrétiens partout, mais de chrétiens qui, à part à Édesse, ne parlaient pas spécifiquement cette langue-là.
Comment on peut embrasser une telle histoire, une telle géographie? On reviendra un petit peu sur ces routes, hein. Les routes de la soie, par exemple, qui ont permis à certains rameaux de ces communautés d'aller jusqu'en Chine. Comment on peut embrasser une telle histoire dans un livre, hein? Le monde syriaque, c'est quand même une sacrée ambition.
C'est très ambitieux, mais nous n'avons pas eu non plus l'ambition de tout dire. L'idée, c'était d'aller à l'essentiel, de proposer un panorama illustré de beaucoup d'exemples aussi, toucher la saveur de cette culture à travers des images, mais à travers des textes aussi. On a mis beaucoup de citations, alors bien entendu en traduction, hein, que nous avons trouvées ou que nous avons faites. Donc, à la fois d'être très spécifique, avec des exemples, avec des textes, mais en même temps, il ne s'agissait pas non plus de tout dire. Alors, il y a une bibliographie à la fin, pour ceux qui veulent aller plus loin.
En consultant l'ouvrage, on sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Vous qui êtes plutôt habitué à des chroniques beaucoup plus sérieuses sur l'épigraphie, sur des textes anciens, quelle était votre émotion?
C'est un travail très jubilatoire de faire cela, parce que il y a la rédaction du texte, mais il y a aussi ce côté, justement, tout le travail avec les illustrations, de se dire, ah, on parle de Narsaï, il faut qu'on montre qui est Narsaï. Donc, de chercher un texte qui pourra être, bon, qui ne représente jamais complètement cette œuvre, mais qui quand même donnera un petit peu la saveur d'Éphrem, des hymnes d'Éphrem, qui donnera un exemple concret du passage de ces moines venus de Chine et qui arrivent à Paris. Donc, ça a été un travail très heureux, oui.
Parce que j'ai vu même que vous aviez reproduit une couverture d'un Tintin qui a été traduit en syriaque.
Notre ambition, effectivement, c'est ambitieux, était d'aller depuis les origines, c'est-à-dire depuis la culture araméenne dans laquelle s'ancre la culture syriaque, jusqu'à nos jours.
Quelle est la méthode que vous avez adoptée? Parce que je vous connais, vous avez une méthode très scientifique. Est-ce qu'on peut approcher cette volonté de pédagogie par les mêmes réflexes qui sont ceux de votre formation et de votre métier?
Je suis au CNRS, mais j'ai toujours aimé enseigner et j'ai toujours tâché d'enseigner tant que je le pouvais. J'enseigne régulièrement l'histoire des syriaques, des églises syriaques. Le but était de faire un livre pour un public qui ne se connaît pas et que je connais un peu par des conférences et des enseignements, oui.
Alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Nous parlions de culture syriaque au pluriel. Il faut peut-être un peu préciser cette expression. Si nous comprenons bien, ce sont des peuples différents, donc les Persans, les Mésopotamiens, d'autres communautés dans ces pays-là, qui adoptent cette langue comme une langue internationale, comme une langue qui est vecteur d'une culture qui les dépasse peut-être.
Oui. Alors, il y a un premier point qui est très important, qui est que cette culture, je l'ai dit, c'était trouver une zone frontière. Donc, c'est développé d'une part dans l'Empire romain, de l'autre dans l'Empire perse-sassanide.
C'est peut-être pour ça qu'on le connaît mal finalement, parce que on est à une frontière, une jonction de deux empires.
Mais c'est toujours effectivement là que se trouvent les gouffres où disparaît la connaissance un petit peu. Donc elle s'est développée des deux côtés. D'un côté donc plutôt dans la grande Syrie, disons, et donc dans le cadre de l'Empire byzantin, romain et byzantin, et donc avec des gens qui parlaient plutôt un araméen, mais un araméen occidental. Et puis, du côté de l'Empire perse, avec des gens qui parlaient l'araméen de Mésopotamie ou qui parlaient le persan. Et puis ensuite, cette culture s'est répandue avec les missions. Missions qui ont été aussi bien vers le sud, c'est-à-dire vers l'Arabie, vers le golfe Persique, le sud-est, disons, une route maritime qui a abouti en Inde, et puis à travers toute l'Asie. Et donc, se sont trouvés vecteurs de cette culture des gens qui étaient persans, qui étaient sogdiens. Une des choses que l'on voit bien maintenant, on sait que le christianisme est arrivé jusqu'en Chine, il est arrivé au moment où l'islam arrivait au Proche-Orient, et finalement l'arrivée de l'islam au Proche-Orient pour cette culture-là et ces églises-là a été plutôt un moment de début de véritable efflorescence. Ce n'est pas là du tout le début du déclin. Et en Chine, ceux qui ont apporté le christianisme en Chine n'étaient pas des Syriaques, n'étaient pas des Persans, n'étaient pas des gens du cœur de ce monde chrétien, du début de la mission, mais des Sogdiens. Donc ça a été une mission à rebond, c'est-à-dire où des peuples christianisés et qui avaient reçu cette culture syriaque l'ont eux-mêmes porté plus loin.
Peut-être précisons ce que sont les Sogdiens.
Alors les Sogdiens, c'est un peuple d'Asie centrale qui a une culture et une langue apparentée aux Persans, de la même famille, de famille persane.
La région de Samarcande aujourd'hui.
La région de Samarcande, oui.
Qui ont été en fait ces relais de ce christianisme de culture syriaque vers la Chine.
Voilà.
Et en Chine, nous avons une stèle, je crois.
Alors en Chine, il y a à Xi'an, qui était à l'époque des Tang, la capitale de l'Empire chinois, et qui est une ville assez connue des touristes puisque c'est le point de départ pour aller voir les fameuses armées enterrées. Et à Xi'an, on a retrouvé au XVIIe siècle une stèle inscrite en chinois et en syriaque qui relate, d'un côté, il y a une partie historique qui relate l'arrivée de la mission. Alors cette stèle date du 9e siècle, mais elle relate l'arrivée du 8e siècle, mais elle relate l'arrivée au 7e siècle du christianisme en Chine. Et puis il y a un exposé de la foi en chinois. Ce qui a été finalement, c'était les premiers, les gens de culture syriaque, à essayer de mettre le christianisme dans des mots du chinois.
Ce qui est fou dans vos propos, c'est de penser que le premier contact en fait entre une culture mésopotamienne, disons orientale, méditerranéenne orientale et la Chine, c'est par ce christianisme de culture syriaque.
Oui, alors il y avait eu sans doute un contact par des marchands dès l'époque romaine. On sait
contact
que,
intellectuel.
Mais contact intellectuel, on n'en a pas de traces avant, effectivement.
Et à l'époque, ils ont traduit du syriaque en chinois.
Ils ont traduit du syriaque en chinois ou peut-être. Alors ces textes qu'on a en chinois, on a cette stèle, mais on a aussi retrouvé des textes sur papier, beaucoup plus tôt qu'on en a en Occident, puisqu'en Chine, on écrivait sur papier. Ce ne sont pas des traductions, ce sont des adaptations pour essayer de rendre dans la mentalité chinoise, dans la pensée chinoise, par exemple la notion de trinité. Ce ne sont pas directement des traductions, mais ce sont un effort qu'ont fait 10 siècles plus tard les jésuites.
Matteo Ricci.
Voilà, mais ils auraient peut-être pu utiliser tout cela et s'en inspirer parce qu'il y avait des grands savants qui avaient déjà pensé cette question-là.
Je suis avec Françoise Bricquel-Chatonnet ce matin pour évoquer un très bel ouvrage qui vient de sortir aux éditions Les Belles Lettres, Le Monde syriaque sur les routes d'un christianisme ignoré. Nous parlions d'une histoire nationale, nous parlions de communautés syriaques dans toute leur diversité. Nous le savons, bien entendu, à notre époque, avec ce désastre qui se passe en Irak, en Syrie, où les chrétiens partent en grande quantité. Et parmi eux, beaucoup sont de culture syriaque et de cette langue, justement, dont nous parlons. Donc c'est une langue qui est toujours parlée. Revenons à cette histoire d'identification. Les Coptes, c'est l'Égypte. Les Arméniens, c'est l'Arménie. Et les Syriaques, c'est plusieurs pays.
Et les Syriaques, alors ça a été donc une histoire qui a été jusqu'en Inde et en Chine et qui est encore une histoire indienne. C'est-à-dire qu'il y a encore dans le sud de l'Inde, au Kerala, des populations dont la culture et la langue est la langue qu'ils parlent et dans laquelle ils écrivent et font leurs études, c'est le malayalam, mais qui sont chrétiens appartenant aux églises syriaques et donc dont la langue de culture religieuse est le syriaque. Donc ça reste quelque chose de divers. Alors effectivement, il y a eu une tendance récente à penser le monde syriaque en termes de peuple, mais c'est quelque chose de récent. Et alors maintenant, effectivement, il y a des revendications nationales, mais qui ont du mal à définir quelle est l'unité de ce peuple. Et en Irak, par exemple, ceux qui revendiquent une possibilité d'identification nationale à l'intérieur, par exemple, de l'Irak, s'appellent les Assyro-Chaldéens syriaques, ce qui prouve bien la difficulté de mettre un mot dessus. Un mot aussi parce qu'il y a eu plusieurs églises qui ont constitué plusieurs communautés avec des différences qui venaient de l'histoire, qui venaient de la théologie, mais qui ont fait que des différentes communautés se sont constituées. Les unes revendiquant plus l'héritage mésopotamien, les autres plus l'héritage araméen. Si les communautés, disons, syriaque oriental s'appelle actuellement Assyro-Chaldéen, c'est parce que au XIXe siècle, elles ont revendiqué de descendre de ces antiques peuples de la Mésopotamie, comme les Coptes ont revendiqué de descendre des Égyptiens, les Assyriens. C'était au moment où on a trouvé les premiers palais à Ninive, à Khorsabad, et où souvent les chrétiens ont servi d'intermédiaires et d'assistants aux archéologues qui leur ont dit « mais vous êtes les descendants des Assyriens, des Chaldéens ». D'où cette revendication, mais voilà, il y a eu des éléments de la culture assyro-chaldéenne qui ont passé dans la culture syriaque.
Il y a une très belle photo que vous montrez, enfin c'est un montage que vous avez fait entre la coiffe, par exemple, des patriarches orientaux actuellement et la coiffe des rois babyloniens et assyriens.
Et perses, oui.
Et perses, voilà. Et vous émettez la possibilité d'une transmission, bien sûr.
Est-ce que c'est une transmission ou à une époque une réappropriation? Je vous avoue que je n'ai pas fait la recherche, mais c'est tout à fait frappant. Et donc voilà, il y a maintenant une revendication nationale, il y a un drapeau des Assyriens, mais c'est quelque chose de récent. Dans l'histoire de la culture syriaque, et ce n'est pas quelque chose qui concerne tous ceux qui sont porteurs de la culture syriaque, et entre autres pas les Indiens. Et puis les Maronites sont porteurs de la culture syriaque, et eux, c'est le Liban. Ça reste quand même une culture qui ne s'identifie pas à un peuple précis.
Peut-on parler d'une religion de monastère ?
On peut parler d'une religion qui a été de monastère en deux sens. Le monachisme a été extrêmement important. J'allais dire plus généralement l'ascétisme, parce qu'il y a eu des formes d'ascétisme bien différentes du monachisme. La Syrie a été quand même le lieu, notamment des stylites, qui était syriaque ou qui était grec, mais le syriaque aussi.
Saint-Siméon sur sa colonne.
Saint-Siméon sur sa colonne, par exemple. La deuxième chose, c'est que cette culture n'étant pas la culture d'un État, c'était des chrétiens qui étaient d'abord ou dans l'Empire byzantin de culture grecque ou dans l'Empire perse de religion zoroastrienne, puis dans le monde arabe, puis partout en Asie. Avec des pouvoirs totalement différents. Il n'y a jamais eu de pouvoir chrétien syriaque, ou pratiquement pas. Donc, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les élites civiles qui ont porté cette culture.
D'où l'importance des monastères.
D'où l'importance des monastères, parce que c'est une culture qui a été transmise et copiée. Les manuscrits qui nous ont transmis la littérature ont été copiés dans des monastères.
On a l'impression d'une foi populaire aussi, d'une foi qui se répand par des vecteurs. Nous parlions de marchands tout
Alors,
à l'heure.
Alors, les vecteurs de la mission, ça a été les marchands, oui.
Est-ce qu'on pouvait être prêtre et marchand, par exemple?
Je ne sais pas.
Donc ces gens qui partaient sur les routes de la soie
On a peu d'éléments précis, mais par exemple, saint Thomas, on a les Actes de Thomas, un texte qui date quand même du début du IIIe siècle, donc c'est un texte ancien, qui relate donc le voyage de Thomas portant le christianisme en Inde, dans une Inde dont on ne sait pas trop laquelle c'est, mais un petit peu abstraite. Mais voilà, Thomas part en Inde comme esclave d'un marchand. Donc voilà, c'est bien parce qu'il y avait un bateau marchand qui partait et qu'il était comme esclave de ce marchand qu'il est parti en Inde.
Est-ce que vous auriez un autre exemple de cette sorte-là vers vous parliez du golfe Persique tout à l'heure. Alors, j'ai l'impression qu'on a retrouvé des restes de monastères.
Restes de monastères qui ont été retrouvés, un plutôt du côté iranien, c'est sur l'île de Karg. Au moment où on construisait le terminal pétrolier, on a fait des fouilles et trouvé tout un monastère. Et puis plusieurs, et on en retrouve régulièrement sur la côte côté Arabie. Et c'était effectivement le long de la route commerciale qui était fréquentée notamment par les bateaux venant du fond du golfe Persique. Le commerce de Palmyre n'était pas un commerce de la route de la soie terrestre, c'était un commerce de la route de la soie maritime, donc qui descendait vers le golfe Persique et de là vers l'Inde. Et la tradition veut, par exemple, que saint Thomas ait été en Inde et que les Indiens soient chrétiens depuis le 1er siècle. On n'a pas de traces historiques, mais ça n'est pas non plus impossible. Il y avait des marchands venant de l'Empire romain, et pourquoi pas, il y aurait eu des chrétiens dès le 1er siècle.
Vous êtes ouverte en tant qu'historienne à ce genre de suppositions et de rêves, peut-être?
C'est-à-dire que je pense que, en tant qu'historienne, je ne peux rien dire historiquement dessus. Mais je ne peux pas non plus dire que ça n'existe pas. C'est une tradition. Donc, une tradition, ce n'est ni de l'histoire, ni de la légende.
Nous étions avec Françoise Briquel-Chatonnet ce matin pour évoquer Le monde syriaque sur les routes d'un christianisme ignoré, paru aux belles lettres récemment au prix de 25 euros. Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Alain Joubert pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci.